bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous en sommes dans l'Apocalypse. Nous allons continuer ce soir encore.
Et je vous
rappelle que l'Apocalypse veut dire révélation, c'est-à-dire quelque chose qui est dévoilé aux hommes d'une façon divine par l'instrument que Dieu a choisi.
Et nous
avons vu très brièvement que c'est le livre de l'histoire finale de l'humanité. Ce n'est pas un livre de catastrophe, hein, parce que quand on dit Apocalypse, tout le monde voit que catastrophe. C'est vrai que Dieu va envoyer ses jugements contre les puissances sataniques. Mais en fait, l'idée, c'est de détruire tous les systèmes de ce monde. Les systèmes politiques, les systèmes économiques et les systèmes sociaux de ce monde. Parce qu'ils sont gérés en grande majorité par l'ennemi, justement, qui influence les gens. C'est pour ça que sur cette terre, vous n'aurez jamais de justice tant qu'il y a le mauvais gestionnaire. Vous n'aurez jamais une économie qui va prospérer et continuer de prospérer. Ça va toujours faire comme ça. Vous, les économistes, vous savez bien que l'économie, ça fait toujours comme ça. Les gens se battent parce qu'ils veulent du pouvoir. Un jour c'est la paix sur un continent et le lendemain c'est la guerre. Et après c'était la paix sur l'autre continent ou l'autre pays d'à côté et maintenant c'est la guerre.
Pourquoi ?
Parce que le mauvais gestionnaire influence les gens. Et là nous avons la grâce au travers de ce livre d'avoir la fin de l'histoire. Donc nous avons vu que c'est la révélation de la gloire de Dieu. Ce n'est pas non plus un livre qui est forcément chronologique, faites attention, on verra. Il n'est pas là pour nous faire peur. Mais c'est pour nous montrer la victoire totale de celui que nous aimons et que nous servons. Donc c'est la gloire qui nous est réservée dans l'éternité. La défaite irrévocable de l'ennemi et la victoire écrasante de notre maître, de notre roi des rois qui est Jésus-Christ. C'est aussi un livre où nous devons prévenir les pécheurs en leur disant « Attention, le jugement arrive pour celui qui ne se repentira pas et qui n'aura pas foi en Christ. » Je vous ai montré aussi que nous ne devons pas spéculer sur les informations que nous entendons tous les jours à la radio, à la télévision, dans les journaux, etc. etc. Ce n'est pas marqué dans l'Apocalypse. La seule chose que nous pouvons voir, c'est qu'il y a des éléments, bien sûr, qui vont permettre aux prophéties de la Bible de la fin des temps de se réaliser. Quelques exemples, la reconstitution d'Israël en 1948, c'est évident que c'était un événement prophétique sans précédent. Sans qu'Israël soit une nation, rien ne peut se produire dans les événements prophétisés à l'avance. Donc nous avions vu tout le premier chapitre, beaucoup de choses sur Jean, l'île de Patmos, etc.
etc.
Aussi les avertissements de la parole de Dieu de bien garder ces choses. On a vu que dans l'Apocalypse, il y a principalement des prédictions, des prophéties de prédictions, c'est-à-dire qui vont révéler l'avenir, mais pas seulement. Il y a des choses passées et présentes. Mais tout ce qui est passé, prophétiser d'avance, c'est selon la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas la foi de l'homme, l'obéissance de l'homme, la désobéissance de l'homme qui fera quoi que ce soit. Dieu a écrit d'avance un certain nombre de choses qui se passeront sans appel. Alors, nous avons vu des choses sur les sept esprits de Dieu, hein, quand la Bible nous en parle devant son trône. Nous avons expliqué un certain nombre de choses. Jean va recevoir une vision.
Nous avons
vu les différents types de visions. Et puis la fin du chapitre 1, enfin la moitié du chapitre 1, on peut dire, se termine avec une vision extraordinaire que Jean va recevoir. De Jésus qui est glorifié. Et juste à la fin du chapitre 1, Jésus va dire qu'il va adresser donc un message aux sept églises. Et nous sommes donc effectivement dans les sept églises. Et nous allons continuer. Et Jésus s'adresse à sept églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes,
Tiwatura, Sarudo,
Philadelphie et Laodicée.
Philadelphia hamwe na Laodikayo.
Alors nous avons vu que dans la structure de il y a eu des structures dans chaque lettre que Jésus va adresser aux églises. D'abord il s'adresse évidemment à l'ange. Et là on voit que l'ange c'est vraiment un ange et que sur chaque œuvre de Dieu il y a un esprit angélique qui veille. Et je vous ai dit que ce n'est pas les pasteurs, comme certaines interprétations l'ont dit, mais ce sont les anges à qui c'est adressé. Ça sera transmis justement aux églises. Et nous avons vu aussi une autre chose, c'est que Jésus se présente toujours, va se donner un titre qui nous révèle une facette de Christ. Ensuite, Jésus souvent fait des éloges. C'est-à-dire qu'il dit, il trouve très bien quelque chose de particulier dans cette église, les points forts. Sauf, on verra pour l'église de Laodicée, où il n'y aura pas d'éloge. Il y a des reproches directs, on les verra. Sauf pour l'église de Smyrne et Philadelphie. Et puis il y a une exhortation pour chaque église. Et c'est toujours cet aspect avec Dieu, parce que Dieu voit les choses positives. Aussi, il peut voir un certain nombre de choses qui ne vont pas, et il va nous le dire. Mais il va nous donner aussi toujours un espace pour nous redresser. Parce qu'aucune église est parfaite. Et Dieu nous donne toujours un espace pour qu'on change. Et toujours un temps pour qu'on change. C'est pour ça que je n'accepte jamais quand il y a une prophétie qui annonce un jugement, point. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et même quand les gens vont dans les pires choses, il y a toujours une condition où ils peuvent s'en sortir. Et ça passe par la repentance. Si vous entendez une prophétie un jour qui dit Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, point. Et c'est des trucs de malheur, les prophètes de malheur, comme je les appelle. Rejetez ça directement. C'est pas du Saint-Esprit. Dieu envoie toujours sa grâce quelque part. Il peut faire des reproches, mais il dit toujours, par contre, si tu te repens, si tu changes, si maintenant tu changes de voie, alors voilà ce que je ferai pour toi. C'est toujours comme ça. En tout cas, il laisse toujours un espace avec du temps pour le faire. Bien sûr, il y a un moment où son jugement peut tomber, effectivement.
Il
y a toujours l'espace pour le changement dans un temps. Alors, nous avions commencé à voir donc la, au chapitre 2, message aux sept églises, et on avait commencé à voir Éphèse. Donc Éphèse, je vous rappelle que c'est une église qui avait environ une cinquantaine d'années quand Jean reçoit cette révélation.
Et
on trouve, en fait, c'est la seule église qui, dont on trouve la naissance, l'historique, comment elle a commencé dans la Bible. C'est dans Acte 19 où Paul rencontre un petit groupe de prière. Et c'était donc en 54 environ après Jésus. Donc l'église avait entre 40 et 50 ans.
J'aurais
plus une quarantaine d'années pour être plus exact. Et il rencontre un petit groupe de 12 chrétiens. Et il leur reprêche pas l'évangile, mais il les baptise dans l'eau. C'était des chrétiens qui étaient boiteux, qui n'avaient pas la doctrine de l'église. Et en fait, à partir de ça, Paul va partir d'un petit groupe de 12 personnes. Il va rester 3 ans et demi à Éphèse. Et il va révolutionner toute l'Asie mineure, c'est-à-dire l'ouest de la Turquie. Et les sept églises dont il est parlé sont entre autres le fruit de la semence du ministère apostolique de Paul. Donc les sept églises dont il fait mention ici dans l'Apocalypse 2 sont entre autres des conséquences de ce que Paul a semé dans cette région plus de 40 ans plus tôt. Mais la seule dont on sait qui existait déjà au départ, bien sûr, qui est née, c'est celle d'Éphèse. Et on voit que vraiment la doctrine était extrêmement bien établie dans cette région du monde. Parce que même si on étudie l'histoire de l'Église, pendant plus de 2 siècles encore après, la région d'Asie mineure était connue.
C'est
une région où il y avait beaucoup de chrétiens, où il y avait beaucoup d'églises. Sauf que quelques siècles plus tard, il n'y aura plus rien. Et ça fait très longtemps, vous pouvez aller en Turquie aujourd'hui. Et ça fait bien des siècles maintenant. Ou dans l'ouest de la Turquie, dans cette, justement cette région-là. Et bien, en fait, il n'y a quasiment plus aucun chrétien. Et c'est terrible. Alors que pendant les 2-3 premiers siècles de l'ère chrétienne, cette région était en feu pour Dieu. Et entre autres parce que l'apôtre Paul y a passé 3 ans et demi. Donc nous avons commencé cette église, on va la continuer maintenant. Jésus dit au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qu'ils ne sont pas, et tu les as trouvés menteurs. » Donc je vous rappelle qu'une œuvre locale une église locale doit produire des œuvres. Des fruits. On doit produire des fruits. Il y a des églises qui sont quasiment stériles. Elles
ne
sont pas de nouveaux convertis. Ça
ne
bouge pas, il n'y a pas d'onction. Il
n'y
a pas de gens qui sont construits dans le Seigneur.
Il
n'y a pas de gens qui sont remplis du Saint-Esprit.
Il
n'y a pas de gens qui sont guéris. Il n'y a pas de gens qui sont délivrés. Il n'y a pas de gens qui ont des vies transformées. Et ce sont des églises qui sont sans fruits. Vous y allez 5 ans, 10 ans plus tard. Vous trouvez un groupe de chrétiens qui est complètement endormi et qui ne porte pas de fruits. Et ça,
ce
n'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est qu'on aille de l'avant et qu'on porte des fruits. Alors, Jésus la loue pour sa persévérance aussi. Nous avons vu ce que c'était que la persévérance. C'est d'appliquer les lois spirituelles dans un milieu hostile. Jusqu'à ce que ce milieu soit influencé par le royaume de Dieu, les lois du royaume de Dieu. Et appliquer ces lois, bien sûr, sans se relâcher, se décourager devant l'adversité. En vue d'obtenir les promesses divines et de voir sa puissance se manifester dans nos situations. Ensuite, nous avons vu qu'il y a des faux apôtres. Et je vous ai parlé des faux serviteurs de Dieu. Entre autres, des faux apôtres et des faux prophètes. Les deux dangers dont Paul parle dans Acte 20. Et il nous dit clairement qu'il faut faire attention. Les faux prophètes sont des gens qui ne sont pas sauvés, qui travaillent avec des esprits familiers, qui font des signes, des prodiges et des miracles, qui trompent des gens, et malheureusement qui séduisent des chrétiens. Des gens, parce qu'ils voient des choses, ne regardent pas et n'ont pas de discernement pour voir que ces choses sont fausses. Et il y a un certain nombre de ces personnes-là qui sont reconnues comme des ministères qui sont faux. Et j'en connais plusieurs. Certains font même des choses dans des télévisions chrétiennes ou ont même leur chaîne de télé.
Et
Jésus lui dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et tu les as trouvés menteurs. Et on avait terminé par ça et je vous ai montré que éprouver ici, c'était tester le caractère. Regardez les motivations qu'il y a derrière quelqu'un. Parce que nous sommes l'église de Dieu, frères et sœurs. Paul dira dans Timothée que l'église de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Dieu nous a confié une mission. C'est de prêcher la vérité, de garder la vérité et d'éprouver ce qui se dit la vérité et qui n'est pas la vérité. Et Jésus est très clair par rapport à l'église ici. Il dit, tu as éprouvé, tu as testé le caractère de ces gens. Ils se disaient serviteurs de Dieu. Mais tu as testé, tu as éprouvé leur fondement, leur motivation. Et tu as vu que c'était des menteurs. Et à ce moment-là, tu les as rejetés. Et c'est ce que l'église d'Éphèse a fait. Ensuite, il dit, verset 3, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Si vous voulez vous tenir pour la vérité, frères et sœurs, vous aurez toujours de l'opposition, des persécutions, des calomnies. Vous savez, des fois, on parle mal de nous parce qu'on a fait une gaffe. Et c'est clair, quand on fait une gaffe, on doit subir les conséquences de notre gaffe. Si quelqu'un parle mal de toi parce que tu as fait quelque chose de mal, c'est une souffrance que tu t'es imposée. Mais il y a des souffrances qui viennent du diable au travers des hommes, parce que tu te tiens pour la vérité. Des fois, tu n'es pas compris, tu refuses de faire certaines choses en disant non, je ne ferai pas quelque chose qui va contre mes convictions. Parce que nous avons besoin de chrétiens de conviction, frères et sœurs. Pas des gens qui chantonnent les petits chants chrétiens là. Et quand quelque chose arrive, ils se font embarquer par toutes sortes de vagues, de modes, de choses qui ne sont pas scripturaires. Et on leur dit, regardez, c'est pas la bonne direction, la Bible dit pas ça.
Oh,
si. Dieu a dit, le serviteur de Dieu a dit, ok. Mais je suis désolé. La Bible nous dit d'éprouver les motivations des gens pour savoir ce qu'il y a vraiment derrière.
Et
ça nous amènera des souffrances. Alors maintenant, nous allons lire au verset 4 du chapitre 2. Et Jésus dit, tu fais des bonnes choses, tu travailles bien, ok, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5, il lui dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes.
Alors
en fait, ici c'est une église bon, dont on a l'histoire de la Genèse, c'est-à-dire comment elle a commencé, nous le savons, acte
19.
Puis, quelques dizaines d'années plus tard, Paul va mourir.
Tous
les autres apôtres sont morts. Et Jean, à la fin du 1er siècle, l'église ayant plus d'une quarantaine d'années, eh bien, il reçoit ce message pour cette église. Donc on voit que c'est une église qui est extrêmement bien enseignée, qui vraiment a du discernement, fait attention, ne laisse pas venir n'importe qui faire n'importe quoi. Parce qu'on verra qu'il y a une église où Jésus va reprocher à une fausse prophétesse d'enseigner et de séduire des serviteurs de Dieu. On le verra juste un peu plus tard. Et en fait, Jésus ici voit que l'église est bien établie. Mais le problème dans lequel elle est tombée, c'est que c'est une église qui s'est repliée sur elle-même. Ça veut dire, on est bien, on est béni, tout va très bien, gloire à Dieu, et on a oublié qu'il y en avait d'autres qui étaient à l'extérieur et qui se mouraient sans Christ. En fait, Éphèse ici, on pourrait dire, c'est l'église qui est bien grâce spirituellement. Elle a beaucoup d'embonpoints spirituels. Le problème, c'est que maintenant, elle a du mal à se déplacer pour aller chercher les pécheurs. C'est-à-dire qu'elle est rivée plus sur la bénédiction. Écoutez bien ce que je vais vous dire. En fait, elle se focalise bien sur ça, la bénédiction, et elle est bénie. Le problème, c'est que là, il y a une motivation mauvaise au niveau de la relation avec Dieu. La bénédiction sans le travail du caractère de quelqu'un peut amener au rétrogradage, donc à la malédiction. C'est pour ça que je refuse de prêcher la bénédiction seulement. Parce qu'il y a de plus en plus de ministères qui attirent en disant « Venez, vous serez bénis ». C'est vrai que c'est un message qui peut attirer. Mais ce message n'est pas complet par rapport à la parole de Dieu. Quand des gens ne pensent qu'à eux-mêmes au bout d'un certain temps, ils ne veulent être que bénis, moi, Seigneur, je te prie pour moi, j'ai besoin de ceci, cela, ils savent recevoir dans la foi. Mais ils n'arrêtent pas de prier pour eux-mêmes, pour être bénis davantage. Sans comprendre qu'à partir du moment où tu es béni, il y a un temps où tu dois progresser et comprendre comment la bénédiction de Dieu doit venir pleinement dans ta vie. Mais tu dois toujours comprendre, comme ce que Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Ça veut dire d'abord tu dois être béni, mais ça ne va pas s'arrêter là. Et là, cette église était tournée sur sa bénédiction. En fait, elle était tellement bien dans sa bénédiction que Jésus lui dit, regarde d'où tu viens là. T'étais très motivé pour aller parler de moi partout, pour aller chercher les perdus, pour aller prier pour les autres, et finalement tu t'es replié sur toi-même. Et c'est constamment un combat dans l'église locale. Quand les pasteurs se focalisent uniquement en prêchant sur la bénédiction, les gens vont venir. Mais les gens vont être des chrétiens égoïstes. Au bout d'un certain temps, ils ne vont penser qu'à eux-mêmes. Et ça, ce n'est pas bon. Et il y a toujours un combat d'amener les gens à comprendre comment les lois du royaume de Dieu fonctionnent pour eux. Et au bout d'un moment, le combat, c'est de leur dire, maintenant que vous êtes bénis, allez déverser ça sur les autres. Parce que ça, c'est ce que Dieu veut. C'est sûr que quand quelqu'un est malade, il ne peut pas aider un autre malade dans tous les points de vue. Quelqu'un qui est malade financièrement, il
ne
va pas aider quelqu'un qui est indigent. Il ne peut pas lui montrer un témoignage non plus. Quelqu'un qui est malade dans ses façons de penser, qui n'a pas été transformé par la puissance de la parole de Dieu, il ne pourra pas amener quelqu'un non plus à être transformé. Parce que lui-même est malade dans sa tête. Il a des mauvaises façons de penser. Il n'a pas rempli sa destinée. Il n'est pas épanoui en Christ. Donc il ne peut pas donner envie aux autres. Mais il y a des gens à qui on ne prêche que ça. Et ils se referment sur eux-mêmes. Et ils ne cherchent que la bénédiction de Dieu. Et Jésus reproche à cette église en lui disant clairement, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que c'est le premier amour? Le premier amour, c'est une flamme, mais une flamme qui ne dure pas longtemps. Et c'est absolument ce qu'on voit quand il y a un fiancé et une fiancée. Quand tu rencontres quelqu'un qui tu sens que tu l'aimes, qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu vas voir? Tu ne vois que les choses extraordinaires en lui ou en elle, et les défauts, tu ne les vois pas. Parce qu'on dit que l'amour aveugle, et c'est normal. Et t'as un ami qui te dit, tu sais Steve, fais attention là. Je te dis pas ça Steve. Mais tu sais Steve, fais attention, tu sais, elle est comme ceci, pareil, j'ai entendu blablabla.
Voilà.
Puis Steve lui dit, mais non, elle est trop belle. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose, parce qu'il l'aime. Donc il ne voit que la perfection en elle. Et elle ne voit que la perfection en lui. Parce que l'amour nous donne de voir, la flamme du premier amour nous donne de voir la perfection chez l'autre.
Quasiment.
Et ça, c'est très sentimental. C'est quelque chose qui est bien parce que c'est une flamme.
Et
ça fait... Oui, mais c'est un feu de paille. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Pourquoi? Parce que c'est alimenté avec des choses qui brûlent très rapidement. Et ça, c'est le chrétien qui se donne à Jésus. Il est là le matin. Ah, il ouvre la Bible. Oh Seigneur, parle-moi. Oh, c'est normal. Il est amoureux de Christ. Il prie et dit, ah Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu m'as sauvé. C'est extraordinaire. Je t'aime. Et il ne peut pas attendre de sortir du boulot pour aller à l'église. Et le dimanche matin, il se réveille tôt parce qu'il dit, ah c'est le jour où on va au culte. Alléluia. Et je vais voir les frères et sœurs. Ça, c'est la flamme du premier amour. Il prie et Jésus commence à faire ça. Il y a un petit oiseau qui chantonne autour de lui, dit « Ah, merci Jésus pour le petit oiseau. » Mais il
ne
comprend rien parce que c'est un bébé. Oui, mais va venir les épreuves de la vie. Et ça, c'est très bon. C'est là où l'amour est éprouvé. C'est là où on voit réellement si des personnes s'aiment ou pas. Cet amour qui est la flamme du premier amour va passer. Et là, il peut se passer deux choses. Soit une personne se refroidit complètement. Et va à l'église pour aller à l'église. Le bon chrétien du dimanche matin
qui
est là. Et alors, plus ça va, moins il veut passer de temps à l'église.
Il
y a des églises que je nommerai pas dans le monde entier qui ont 5 000, 6 000, des fois même 10 000 personnes qui viennent. Et on vous montre tous ces gens qui sont là. Mais certaines, si vous y allez, le culte dure 45 minutes. Deux chants parfaitement orchestrés. On commence à l'heure à exactement
9h30.
Et même, j'ai vu dans certains endroits où on met une grosse montre. Vous avez une grosse montre là. Sur les écrans, on met une montre aussi. Et on va dire, le culte commence dans 30 secondes. 29 secondes. 28 secondes. Et quand c'est 0-0, le pianiste, le guitariste, et boum, ça démarre. Je vous dis la vérité. Je vous assure. On fait deux chants, des fois trois chants. Le pasteur arrive, il fait les annonces,
5
minutes, 45 secondes d'annonce, il explique, voilà, il y a les groupes de prière, blablabla, blablabla, le site internet,
blablabla.
Maintenant c'est le temps des offrandes, hop, le pianiste se met à jouer, tout le monde donne, 25 minutes, 0 secondes de prédication. Et à dimanche prochain, je vous assure, parce que les gens veulent quelque chose, ce qu'on appelle le fast food, la nourriture rapide. J'ai l'impression que tu as trouvé un équivalent en Kirundi. Ça veut dire, voilà, maintenant ma vie chrétienne c'est, j'ai fait mon action, j'ai été loué mon Dieu, j'ai donné ma dîme, j'ai écouté mon pasteur. Alléluia.
Alléluia.
Seigneur, à la semaine prochaine. Et les gens sont complètement froids. Et parfois, dans certains endroits du monde, ces églises-là ont beaucoup de succès. Parce que le chrétien sait une chose. Il va entrer à l'église à 9h30. Et à 10h15, il est sorti. Et dans sa voiture, il a sa tenue de sport.
Et
il a déjà prévu son restaurant. Et il a déjà fait sa réservation avant de partir à l'église. Parce que ça, c'est plus important que de se mettre dans la prière. Et tout l'après-midi est parfaitement libre pour aller faire telle ou telle chose. Ce genre de chrétiens sont très froids. Et puis, de temps en temps, dans la semaine, on fait un petit truc spirituel. Je vous assure, le monde moderne est une bonne chose. Mais il a aussi amené beaucoup de gens à ne plus se consacrer. La vraie relation avec Dieu va être éprouvée. Éprouvée avec les choses que tu vas vivre. Les merveilleuses choses que tu vas vivre et les choses pour lesquelles tu vas devoir changer toi. Ou tu vas devoir avoir la foi. Parce que beaucoup de gens, ils ont l'amour suivant. Et vous savez, très souvent, ce que les gens font avec, entre les êtres humains, ils le font avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment une autre personne, non pas pour ce que cette personne est ou représente, mais pour ce qu'ils peuvent tirer, pomper de cette personne. Et il y a beaucoup de relations qui se créent comme ça et de mariages qui se font comme ça. Et qui amènent une catastrophe. Parce que ça, ce n'est pas l'amour divin. Quand tu rentres dans une relation où tu ne penses simplement à qu'est-ce que l'autre va pouvoir t'apporter, qu'est-ce que tu vas lui pomper, la relation est pourrie, la fondation de la relation est pourrie. Et ce premier amour, c'est cet amour que tu avais où tu étais amoureux du Seigneur. Mais la relation avec lui n'avait pas été éprouvée. Et cette relation est souvent transformée en Seigneur, donne-moi. Et ça, c'est une relation qui n'est pas équilibrée. Un jour, quelqu'un a fait un sermon là-dessus. Et il a dit, supposez aujourd'hui, si Jésus ne répondait à plus aucune de vos prières, si vous ne ressentiez plus sa présence un seul jour, tu ne ressens plus sa présence, Jésus ne répond plus à tes prières, est-ce que tu l'aimerais encore? Ou est-ce que tu aimes Jésus pour ce qu'il t'apporte? J'ai trouvé la réflexion assez intéressante. Je me suis dit, quand même, c'est vrai ça. Pourquoi est-ce que tu aimes le Seigneur? Pour ce qu'il fait pour toi? Pour les prières qu'il exauce? Pour sa présence que tu ressens? C'est vrai, nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de voir la puissance de Dieu. Mais est-ce que nous aimons le Seigneur pour ce qu'il nous fait? Pour ce qu'il nous donne? Ou est-ce que nous aimons Dieu pour qui il est? Parce que quand tu commences à aimer quelqu'un pour qui il est, cet amour-là, c'est l'amour divin. C'est l'amour qui passera par les épreuves. C'est l'amour qui, je dirais, se donnera pour l'autre. Et ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. L'amour qui s'est donné pour nous. Pierre, un jour, a été éprouvé dans son amour. On a eu un bon sermon du pasteur Isabelle hier sur ce sujet. Je vais revenir là-dessus. Pour ceux qui étaient là, ça vous fera une bonne révision. Et pour ceux qui n'étaient pas là, eh bien, nous allons revoir ces choses dans Jean chapitre 21. Ce passage où Jésus va restaurer Pierre. Le Pierre qui pensait aimer Jésus plus que tout le monde avant la croix. Oui, ils pourraient tous t'abandonner, Seigneur. Moi, j'irai même jusqu'à mourir pour toi. La prétention de Pierre. Mais Jésus savait et Jésus l'a éprouvé à ce moment-là. Il a éprouvé la relation et l'amour qu'il avait. Il lui a dit, avant que le coq ne chante trois fois, tu m'auras renié. Moi, Seigneur, jamais. Et vous savez ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre a renié Jésus. Quand il a suivi Jésus de loin, il s'est fait piéger. Pierre s'est approché parce qu'il faisait froid de là. Et il a commencé à parler. Parce qu'on commençait à l'interroger. Et il y a des dames qui disent, mais ton visage, on connaît toi. Tu n'étais pas avec Jésus? Avec qui? Mais tu as un accent du nord, là, de Galilée, là. Galilée, dans le nord. C'est un accent un peu différent de Jérusalem. Non, moi je parle comme vous. Pierre s'est fait piéger. Il s'est fait piéger. Il a renié Jésus. Et il a entendu « Cocorico !» Et la Bible nous dit qu'il a pleuré amèrement. Parce que son amour, c'était un feu de paille. Et Jésus, dans Jean 21, a remis les pendules à l'heure. Il s'est fait restaurer. Mais ça n'a pas été facile. Verset 15, on va commencer. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Et Pierre, d'un seul coup, dans sa petite tête, il a recommencé à voir la scène. Où il avait dit à Jésus, tous les autres t'abandonneraient, mais moi,
c'est pas moi.
Moi, mon amour, l'amour que j'ai pour toi, c'est jusqu'à mourir. Et Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes? Et ici, le verbe aimer, c'est l'amour divin, agapao. Est-ce que tu m'aimes de l'amour qui se donne sans condition? De l'amour qui aime pour qui Jésus est. Jésus nous a aimé agapao de l'amour divin parce qu'il nous voyait prophétiquement dans l'éternité. Il ne nous voyait pas dans la condition dans laquelle nous étions parce que nous étions des pécheurs. Et en fait, Jésus lui pose cette question. Cet amour qui n'aime pas pour ce que l'autre lui apporte. Mais cet amour qui se donne. Est-ce que tu m'aimes de cet amour? Et Pierre, il a dit à Jésus. Il répondit, oui Seigneur. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Mais là, je t'aime. Pierre a fait exprès d'utiliser un autre verbe. Et
ce
n'était pas le verbe agapao, l'amour qui se donne pour l'autre. Il lui a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, c'est-à-dire que je t'aime bien, comme des copains, quoi, comme des amis, mais bon, le jour où ça ne va pas, chacun prend son chemin. Le jour où on se fâchera, chacun va de son côté.
Là,
Pierre, il a été un peu plus prudent. Il
n'a
pas dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime de l'amour divin. Parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait que sa belle déclaration, Seigneur, moi, même si tout le monde t'abandonnera, je resterai jusqu'au bout avec
toi.
Il savait que sa déclaration n'avait pas tenu. Et il n'était pas fier. Et j'imagine que Jésus mangeait tranquillement avant, parce que c'est juste après le repas. Jésus mangeait du poisson. Il regardait Pierre.
Et
Pierre, il faisait.
Urabonandege.
I cagnoni. Regarde les oiseaux, regarde, l'avion passe ici.
Atimbega wabonye kaya kanyoni, ena kariya, karirimba neza.
Et en fait, Pierre devait être extrêmement gêné. Il a dû se poser beaucoup de questions. Il devait, dans sa tête, se dire, qu'est-ce que Jésus pense de moi? Je pense qu'il n'a pas mangé beaucoup ce jour-là. Vous savez, il y a des fois où on ne mange pas beaucoup. Des fois, il y a des raisons pour lesquelles on ne mange pas beaucoup. Et là, Pierre, certainement qu'il n'a pas beaucoup mangé ce jour-là. Alors que je suis persuadé que c'était lui qui avait un très bon appétit et qui a coûté cher pendant 3 ans et demi au ministère de Jésus. Et en fait, l'histoire va se répéter 3 fois, mais pas tout à fait de la même manière. Verset 16, Jésus lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, agapao ?» Pierre va répondre la même chose, « Tu sais que je t'aime, philéo, je t'aime d'amitié. »
Et
donc, la première et la deuxième phrase, c'est à peu près la même chose. Regardons le verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» et répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. »
Et
là, quand Jésus lui dit, « Pierre, m'aimes-tu ?» c'est « philéo », c'est plus « agapao ». Il lui dit, « Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin qui se donne sans condition ?» Parce que Pierre lui avait répondu, « Non, Seigneur, je t'aime juste comme un ami, mais on peut se séparer un jour peut-être. » Et là, Jésus reprend le verbe que Pierre a utilisé. Il lui dit, « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, est-ce que, philéo, est-ce que tu m'aimes simplement comme un ami ?» Son amour là allait être éprouvé. La flamme exubérante du premier amour va passer dans nos vies. Elle a quelque chose de bon par contre. Cette flamme du premier amour, c'est la flamme où tu es prêt à aller sur la Lune et sur Mars, même sans fusée. C'est là où tu vas chercher ta fiancée au travail et que tu arrives 5 minutes en avance. C'est là où tu les téléphones à peine réveillés. C'est comme ça que tu fais, si. Il prie d'abord pour savoir ce qu'il va lui dire. C'est là où tu es prêt à tout. Où tu payes les restaurants que tu ne peux même pas te permettre de payer. C'est là où tu vas faire des cadeaux qui vont te coûter cher à la banque. Parce que tu es fou d'amour. Donc tu es prêt à tout.
Et
dans cette flamme du premier amour, c'est pour ça que Jésus répète ça. Il leur dit ça. Il leur dit, tu as oublié ton premier amour, c'est-à-dire ton zèle, parce qu'il y a du zèle dans le premier amour. Mais il n'y a pas de profondeur éprouvée. La relation n'est pas éprouvée avec le temps. Et cet amour, en fait, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons remplis. Quand on dit qu'on soit rempli d'amour pour lui, en fait, ça a deux grandes facettes. Ça a cette facette du zèle. C'est-à-dire, tu es là, tu es prêt. Ah, si le Seigneur te dit, va faire ça, tu le fais. Tu marches dans une foi quasiment aveugle. C'est-à-dire, tu obéis au Seigneur. Tu as soif de Dieu. C'est ta priorité. Ça, c'est ce zèle que Dieu veut qu'on ait. C'est pour ça que Jésus lui dit, n'oublie pas ton premier amour, reviens là. À ton zèle. À être prêt. À me mettre en avant partout. À ce que je sois numéro un dans ta vie tout le temps. Mais aussi la deuxième facette, c'est que ce n'est pas un amour feu de paille. C'est-à-dire que c'est un amour qui est là, tu aimes le Seigneur, non pas pour ce qu'il te fait, ce qu'il te donne,
mais
pour qui il est. Parce qu'il est Dieu. Pour sa nature. Sa nature d'amour. Sa nature de grâce. Son caractère. Sa puissance. Toutes ces choses extraordinaires que tu as commencé à vivre avec lui. C'est les deux facettes où doit se manifester notre amour pour Dieu. Et d'un côté, cette église d'Éphèse. Bon, connaissez Dieu, avait vécu des choses profondes avec Dieu, cet amour était éprouvé, il se faisait pas rouler par le premier qui arrivait et qui disait moi je suis apôtre, je vais tout vous expliquer, mais par contre elle manquait du zèle du feu du premier amour. C'est-à-dire qu'elle était très bien, tout se passait très bien, tout était merveilleux dans l'église. Mais tout était dans les quatre murs. Et Jésus voulait qu'à nouveau, elle brûle de zèle pour aller parler de lui, pour l'aimer d'une façon incroyable, inconditionnelle, du réel amour de Dieu. Ce genre d'amour que Dieu ne veut plus qu'on ait, c'est vraiment Seigneur, je me sens bien, alors je t'aime. Je suis béni, alors je t'aime. Parce que cet amour se change de la façon suivante. Le jour où rien ne va, tu diras pourquoi Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi. Et méfie-toi de ce genre de choses. Si par exemple dans ta vie aujourd'hui, tu
as
plein de questions comme ça. Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi? Ça veut dire que ton amour pour Dieu n'est pas un amour éprouvé. C'est un amour sentimental. C'est Seigneur, je me sens bien, alors je t'aime. Tu me bénis, alors je t'aime. Mais pourtant, Jésus nous a donné un exemple. Dans Jean chapitre 13, Jésus va faire quelque chose qui a été vraiment très très mal compris. Et vraiment, c'est terrible de voir certaines choses qui peuvent être faites sur ce texte. Il est dit verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer à ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour
eux.
Et Jésus va donner une démonstration de l'amour divin. Lui, le maître. Lui qui était supposé être servi, il va se donner et servir. Il va laver les pieds des disciples, il va laver la tête, il va laver les mains. Et c'est vrai que c'est un exemple sur le pardon. Et c'est aussi l'image de notre marche avec Dieu. Où Pierre lui pose des questions, Seigneur, tu me laves aussi la tête, tu me laves les mains, etc.
Et
Jésus lui dit, une fois que quelqu'un est lavé entièrement, c'est-à-dire pardonné complètement,
eh
bien, il a seulement besoin de se laver juste une partie du corps à chaque fois après. Et c'est l'idée, bien sûr, que de nos chutes pendant notre marche avec Dieu. Mais Jésus ici nous donne un exemple d'amour. La Bible nous dit qu'il a mis le comble à son amour, c'est-à-dire là où il s'est donné le plus, à un moment crucial, avant la croix. Il va montrer l'humilité, la simplicité
et
le service, c'est-à-dire aimer, c'est se donner. Aimer, c'est se donner. Tout le monde dit aimer, c'est se donner.
Aimer, c'est se donner.
Regardez Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, 28. Il est dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Beaucoup de gens veulent être servis. Et non pas ce cœur du serviteur. Je dois le dire tristement, je le vois beaucoup chez beaucoup de serviteurs de Dieu. Quand ils commencent à monter un peu, ça y est, ils ont des belles bagnoles impeccables. Ils vivent dans des tours d'ivoire, entre guillemets, c'est-à-dire dans des forteresses intouchables. On dit, oh, the man of God is coming. Et ils sont là sur des piédestals. Les gens, les adultes, c'est-à-dire les mettent tout en haut comme si c'était des demi-dieux. Et ça, c'est une perversité du service. Jésus n'a jamais été comme ça. C'est vrai qu'il y a du respect, mais le respect se gagne. Parce qu'on voit d'un autre côté des gens qui n'ont aucun respect pour les serviteurs de Dieu. Et ça, c'est une autre perversion d'autorité spirituelle. Il y a toujours un équilibre entre les deux. Il y a des gens qui vivent comme des princes sous le prétexte que ce sont des rois dans le royaume de Dieu, et en fait ils prennent l'argent des gens et vivent comme des, je dirais, comme des princes.
Et
les chrétiens dans leur église qui sont dans la misère.
Ça, ce n'est pas biblique.
Maintenant, il y a des gens qui servent le Seigneur et qui sont méprisés. Ce n'est pas biblique non plus. Il y a un équilibre. On doit respecter le serviteur de Dieu. Mais le serviteur de Dieu doit avoir un cœur de serviteur. Parce que c'est un serviteur. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se faire servir. Plutôt que de servir les autres. Des gens qui donnent quasiment rien à manger, si ce n'est qui répètent un truc qu'ils ont trouvé dans un bouquin ou sur Internet. Qui n'ont pas une relation profonde et de recherche profonde dans l'écriture. Pour avoir un rendez-vous avec eux, vous avez une chance sur 10 000. Le serviteur de Dieu est introuvable, il est dans la prière. Oui, il est dans la prière, dans son lit, les yeux fermés. Donc, il n'est pas disponible. Ou comme disent les Congolais, il est empêché. Non, un serviteur de Dieu doit être disponible. Maintenant, il a sa vie privée aussi, bien sûr. Jésus était quelqu'un de disponible.
Mais
il savait se mettre à l'écart. Mais quand on ne peut jamais avoir un rendez-vous avec son pasteur, c'est grave. Ça, c'est inacceptable. Jésus était quelqu'un de disponible, mais quelqu'un qui savait protéger son intimité et son cercle de disciples. Et vous voyez, il y a encore un équilibre là-dessus. Mais on voit vraiment parfois des choses qui sont choquantes. Jésus dit, je suis venu pour servir. Les gens qui pensent que le ministère c'est aller se reposer, eh bien, ils ont tort. Le ministère égale travail. Celui qui ne veut pas travailler ne réussira jamais à faire ce que le Seigneur lui demande. Il n'y a pas de place pour les fainéants dans le service de Dieu. Il
n'y
a que de la place pour ceux qui veulent réellement travailler selon les lois divines. Et souvent, malheureusement, les gens veulent être servis et ne veulent pas servir.
Et
c'est là où ils font une très grave erreur. Donc Jésus dit au verset 5, on revient à Apocalypse 2, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Ici écarter le chandelier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église ne sera plus. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, cette église ne trouvera plus de succession. Là, cette église avait déjà plus d'une quarantaine d'années. Elle était encore en forme. Jésus voit certains défauts, redresse, donne un message pour qu'elle se redresse. Mais comme je vous l'ai dit, dans cette région de la Turquie, l'ouest de la Turquie, en Asie mineure, ils ont 4 ou 5 siècles après Jésus, il y avait un refroidissement spirituel total. Puis après, les musulmans vont venir. Et la Turquie, ce qui est aujourd'hui la Turquie, entre autres, ce n'est pas le seul endroit, mais ça va être islamisé. Les chrétiens, faux chrétiens à l'époque, à partir du 7e siècle, vont en quelque sorte, c'était une religion qu'ils pratiquaient, ils n'étaient même plus nés de nouveau. Alors que cette région était en feu dans les premiers siècles. Et ces églises ont été inexistantes. Depuis lors, elles n'existent plus. Pourquoi ? Entre autres parce qu'elles n'ont pas suivi ce que le Seigneur montrait. Vous savez, quand on étudie l'histoire du vrai christianisme dans les peuples, c'est très intéressant. De voir comment il y a des endroits qui ont été touchés par la puissance de Dieu. Et ce sont des leçons pour nous, frères et sœurs. De toujours garder la flamme de l'amour de Dieu. D'être un témoignage pour nos enfants et nos petits-enfants pour qu'ils puissent voir comment on marche avec Dieu. Pas simplement se dire, moi je suis sauvé, je sais d'où le Seigneur m'a tiré, gloire à Dieu. Mais tes enfants ne voient pas ce qu'est réellement, qui réellement est Dieu. La génération qui vient avec toi et celle que tu vas voir encore après eux. Avant que tu partes, quelle succession tu vas leur laisser. Et une succession, je vous le rappelle, ce sont des gens. Il y a une différence entre un héritage et une succession. Un héritage, ce sont des choses. Ce sont des bâtiments. Mais un bâtiment, sans la présence de Dieu, c'est une église morte. Ce qui fait l'église de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. Même si le bâtiment nous bénit et c'est simplement un instrument. Mais ce qui fait l'église de Dieu, c'est le feu de l'amour de Dieu dans les cœurs. Et cette église a vécu cela. Peut-être longtemps après, parce que je vous dis, quand on étudie l'histoire de l'église, l'Asie mineure, cette région du monde est restée fervente pour Dieu pendant plusieurs siècles. Il y avait une école de doctrine chrétienne dans cette région. Il y a eu de grands serviteurs de Dieu au 2e, 3e siècle qui sont sortis de cette région, qui ont eu un impact dans plein d'endroits du monde. Mais au bout d'un moment, ils se sont complètement refroidis. Et il n'y avait plus rien. Il n'y avait absolument plus rien. C'est ce qui s'est passé. Et c'est une leçon. Vous savez, quand on regarde l'histoire, l'histoire doit nous donner des leçons. Ce qui nous permet de réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait, où on va, et ne laissons pas un héritage seulement, laissons une succession. Une succession, ce sont les gens qui continueront derrière nous, la génération de nos enfants, la génération de nos petits-enfants qui reprendront le flambeau de l'évangile dans la vérité de Christ si Jésus n'est pas revenu, et qui continueront à toujours chercher sa face, à être enseignés dans sa parole, à évangéliser, à marcher dans le réveil, à chercher vraiment la puissance de Dieu. Sinon, eh bien, le chandelier partira. Jésus dit à cette église de se repentir, de faire demi-tour. Cette église avait un problème.
Elle
avait beaucoup de connaissances. Mais Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre
8,
et va donner un équilibre. On verra qu'il y a d'autres églises qui n'ont pas de connaissances, et on verra que Jésus va leur reprocher cela. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 8 au verset 1, il est dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, nous savons que nous avons tous de la connaissance. Mais regardez bien ce qu'il dit. La connaissance enfle, mais la charité, ou la meilleure traduction c'est l'amour, édifie.
Ibishushanyo by'ibigigwamana turazi yuko twese turi n'ubwenge. Ubwenge burakakisha ariko urukundo rurubaka.
Alors vous allez me dire, bon, ça veut dire que Paul est contre la connaissance. Non, c'est pas ça du tout qu'il dit.
Bega Paulo yoba yavuze yuko yanka kugira ubwenge cyangwa
kugira ubumenyi. Parce que Paul a enseigné beaucoup.
Kuko Paulo yarigishije cyane sivyo ariko
aravuga. Et nous verrons dans quelques minutes un passage dans Éphésiens 4 qui nous dit pas du tout cela.
Turaza kubona mu Efeso 4 aho batubwira
ibintu. Verset 2 et verset 3 s'il vous plaît. 1 Corinthiens 8 2 maintenant. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu, de lui. Dans ce passage, il y a une corrélation entre quoi ? Entre la connaissance et l'amour. Paul dit la connaissance seule enfle. Je le vois par exemple avec des gens qui sont à l'Institut biblique.
Il
y en a, ils ont des points extraordinaires, vraiment ils réussissent les examens. Dans ces plus de 15 ans d'Institut biblique, ici, eh bien, j'ai vu toutes sortes de gens passer. Des gens qui avaient un peu de mal, qui aimaient le Seigneur, mais ils avaient du mal avec la connaissance. Des gens qui avaient un équilibre entre la connaissance et l'amour de Dieu. Et j'ai vu aussi des gens être très brillants, avoir beaucoup de connaissances et beaucoup aimer Dieu.
Mais
j'ai vu aussi des gens être très fort, avoir pratiquement les meilleurs points de l'Institut et ne pas avoir un brin d'amour, être sec, il
n'y
a rien qui coule d'eux.
La
seule chose qu'ils veulent, c'est aller prêcher, enseigner, aller ramener toutes leurs connaissances pour qu'on dise bravo.
Non,
la Bible est claire. Il doit y avoir un équilibre entre la connaissance que nous avons, connaissance de la parole, expérience avec Dieu, et l'amour que nous avons pour le Seigneur qui doit se déverser sur les autres. Dans Éphésiens chapitre
4,
Paul nous donne des recommandations très sérieuses à propos du ministère. Au verset 11, qui est très connu, on enseigne souvent là-dessus, Éphésiens 4, 11, Paul nomme les 5 ministères. Je
ne
vais pas détailler tout, mais il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc il nomme les 5 ministères ici.
Ensuite,
Paul explique pourquoi le perfectionnement des saints, l'œuvre du service, c'est-à-dire aller faire la grande mission que Jésus nous a laissée, et l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire faire grandir le corps de Christ horizontalement, c'est-à-dire gagner des âmes, et en même temps verticalement, croissance spirituelle.
Et nous parle
jusqu'à temps que nous ayons la maturité en Christ. Il nous dit aussi comme ça, verset 14, on sera plus entraîné par des fausses doctrines ou par des gens qui veulent nous manipuler. Mais verset 15, il nous dit l'attitude qu'il doit y avoir. Mais professant ou proclamant la vérité dans quoi ? Dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, à savoir Christ. Donc en fait, Jésus était en train de dire à cette église, repens-toi.
Non.
Repens-toi. Pourquoi? C'est pas parce que les chrétiens étaient perdus, ils n'allaient pas aller en enfer, c'est pas ça du tout. Jésus leur dit bien, repens-toi. Repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. C'est-à-dire, ta connaissance est bien. Tu es bien enseigné, tu connais bien les choses de Dieu, mais tu dois être enflammé d'amour pour moi. Tu dois sonder tes motivations vis-à-vis de la relation avec moi et vis-à-vis des autres. En fait, Jésus lui disait, retrouve ton équilibre. Parce que là, tu es en train de glisser vers le mauvais côté. Tu es en train de te refroidir vis-à-vis du zèle. Donc il faut que tu te redresses. Mais se repentir, ça veut dire faire demi-tour. Ça veut dire tu acceptes que tu n'es pas dans le droit chemin, tu es en train de dévier. Et comme je le dis souvent, il y avait à l'époque des découvertes du monde. Au 15e siècle, 16e siècle, les bateaux qu'on faisait partir d'Europe, on mettait des bateaux et les gars partaient pour savoir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté de la mer. On ne voyait rien pendant des milliers de kilomètres. Et puis ils ont commencé à faire des cartes. Mais leur navigation était très difficile au début. Parce qu'ils avaient un espèce de compas magnétique, une aiguille qui indiquait par rapport au champ magnétique de la Terre. Une boussole.
Une
sorte de boussole. Et c'était très imprécis. Si tu déviais d'un demi-degré ou un degré, sur des milliers de kilomètres, tu te retrouvais à des dizaines de kilomètres, voire 100 ou plus de kilomètres du point où tu voulais aller. Ça veut dire que sur une longue route, quand tu commences à dévier un peu, à la fin tu t'écartes de plus en plus du point où tu devais aller. Et Jésus était clair, il leur disait, repens-toi. Pourquoi? Parce que tu es en train, ton zèle a complètement diminué pour moi. Tu n'es plus brûlant comme avant.
Tu as
la connaissance, tu es béni, tu es bien, mais
ce
n'est pas ça. Ton objectif, il faut que tu sois brûlant d'amour pour
moi.
Et c'est ce que Jésus les invitait à faire. Ensuite, Jésus va parler au verset 6, cependant tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Alors concernant les Nicolaïtes, bon, il y a eu quelques commentaires qui ont été faits, des discussions. Certains ont dit que c'était une sorte de secte, un groupement d'une secte de fausse doctrine, donc. Il y en a certains qui ont pensé, oui, ça vient peut-être de Nicolas. Nicolas que l'on trouve dans Acte 6. On peut afficher Acte 6 au verset 1 à 5. Acte 6. Et en fait, bon, verset 1, il y avait, c'est tout au début de l'Église, l'histoire de l'Église, à Jérusalem. Et il
est
dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Verset 2, les douze apôtres convoquèrent la multitude des disciples et ils dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes dont on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint de sagesse, et nous les chargerons de cette tâche ou de cet emploi. Verset 4, et nous continuerons, nous, à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicatome, Timon Parmenas et Nicolas prosélyte d'Antioche. Vous voyez ici, il est parlé d'un certain Nicolas. Mais on n'a aucune preuve, absolument aucune preuve, que ça serait à partir de ce Nicolas que les Nicolaïtes seraient nés.
Urumva ngaha ku murongo wa gatanu baravuga uwitwa Nikolayo ariko ugiye kuraba ntiwuvuga yuko aba Nikolaite bavuye kuri Nikolayo ntawo bavyerekana.
Certains ont fait un rapprochement mais alors on a absolument aucune preuve.
Bamwe baragerageje kuvyegeranya ariko nta na hamwe bihuriye bitwereka ko bahuye.
Ce qu'on a sur les Nikolaites, eh bien on a un passage complémentaire.
Ariko turafise kindi gice kitubwira ku ba Nikolaite.
Et entre autres dans Apocalypse juste au verset 14 et au verset 15 où Jésus s'adresse à l'ange de l'église de Pergame. Et en fait, ça nous apprend un peu plus sur ce que ces fameux Nicolaïtes, cette secte, faisaient. On reviendra sur cette église. Mais on va voir déjà au verset 14, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Verset 15, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes.
Ngo ariko mfise ibyo nkugaya ko ku murongo wa 14 kuko iwanyu ufise abakomeza inyigisho za Balamu yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo bajye ibyaterekerejwe ibigirwamana bashakane niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'abanikorayiti nkuko nyene.
En fait, ça fait référence à une histoire de l'Ancien Testament. Apparemment, c'est clair que Jésus fait référence aux Nicolaïtes comme étant verset 14, un peu plus haut. Verset 14, merci. Donc, à propos de cette histoire de la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak. Et en fait, quand on lit cette histoire, on la trouve dans Nombre 22. Chapitre 22 ou chapitre 24. Et dans cette histoire, on ne pourra pas lire bien sûr tous ces chapitres, c'est beaucoup trop long dans les nombres. Je vais vous résumer un peu cette histoire et vous montrer ce que le Seigneur reprochait à ces Nicolaïtes, qui étaient des choses absolument extrêmement graves.
Il est dit
au chapitre 22, de Nombre, verset 1 et verset suivant. Il est dit, les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsiphor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire ils vont tout ravager, ils vont tout détruire, ils vont nous exterminer, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Balak, fils de Tsiphor, était roi de Moab en ce temps-là. Donc en fait, on a un certain Balak qui était roi donc de Moab. Et en fait, Moab, c'était un endroit où, un territoire, où il y avait les Moabites. Et Israël devait traverser ce territoire. Et ils avaient extrêmement peur, ces gens-là. Et en fait, Balak s'est dit, si jamais les Israélites, ce peuple qui représentait plus de 2 millions de personnes, passent dans notre territoire, ils vont nous ravager, ils vont nous piller, ils vont nous détruire. Et Balak a eu peur. Par contre, il y avait dans la région un prophète de Dieu qui s'appelait
Balaam.
Et ce fameux
Balaam,
qui avait des dons divins, qui était un vrai prophète, mais qui était un prophète qui avait des problèmes très sérieux. C'était un prophète qui donc parlait des choses de Dieu, qui avait une puissante onction. Et Balak a voulu se servir de cet homme de Dieu, alors que Balak servait des idoles et des démons. Il a été voir Balaam, a essayé de le convaincre.
de
parler des malédictions sur le peuple d'Israël. Et Dieu l'a sévèrement repris plusieurs fois. Et au début, Balaam a accepté d'obéir à Dieu, de ne pas aller voir Balak et de parler des choses. Mais au bout d'un moment, il est monté sur son âne et il est parti. Et Dieu a utilisé l'âne pour lui parler et pour lui faire barrière. Il y a un ange de Dieu qui s'est arrêté et qui a empêché Balaam d'aller jusqu'à Balak pour maudire le peuple de Dieu. Vous allez me dire, comment est-ce qu'un prophète de Dieu peut maudire le peuple de Dieu?
Et
bien, sachez que c'est possible. Quand Dieu met une onction puissante sur quelqu'un, cette personne a une puissance à sa disposition. C'est pour ça que Dieu oint très peu de personnes d'une façon très puissante, parce que si la personne dévie, cela peut créer beaucoup de désordre. Balaam était quelqu'un qui a dévié. Et Balaam n'a pas du tout un bon témoignage dans la parole de Dieu. L'idée ici, c'est d'utiliser les dons de Dieu pour faire des choses perverses dans le sens de soit pouvoir être soi-même glorifié, soit retiré de l'argent à partir de dons divins. C'est ce qu'on appelle abuser de l'onction. C'est utiliser les dons de Dieu pour des fins personnelles de gloire, d'argent ou de pouvoir. Donc de gloire, c'est-à-dire que c'est la gloire qui te revient, ou d'argent, tu monnaies les dons de Dieu, ou de pouvoir, c'est-à-dire que tu accèdes à une position au travers de ça, en utilisant des dons divins. Ça veut dire que tu pervertis l'onction de Dieu. Ce que Dieu t'a donné qui est saint, qui est pur, qui doit servir pour sa gloire, qui doit être gratuit et qui n'est pas là pour te donner une position grâce à cela, tu l'utilises et tu pervertis ces choses. Tu prends ce que Dieu t'a donné et tu l'utilises à des fins impures. Et c'est exactement ce que Jésus disait à propos des Nicolaïtes. Et il le dit bien cependant, verset 6, j'ai ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. C'est-à-dire utiliser des dons de Dieu, utiliser l'onction et pervertir ces choses. C'est pour ça qu'il y aura deux références que nous allons voir brièvement, et nous reviendrons sur cette histoire de Balaam et Balak un peu plus tard avec Pergame.
Dans
Jude verset 11, la Bible nous dit: malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire de l'argent ici, dans l'égarement de Balaam. Donc des gens qui utilisent des dons divins pour des fins personnelles, de gloire personnelle, d'argent ou de position. Et nous allons clôturer avec 2 Pierre 2, versets 9 à 15. Il est dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux, c'est-à-dire qu'ils s'attachent à lui, et de réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Verset 10, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, verset 11, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Verset 12, mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, c'est-à-dire à leur chair, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption. Verset 3, recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvèrent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Verset 14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Verset 5, après avoir quitté le droit chemin, vous voyez, quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité. Verset 15 en Kirundi, s'il vous plaît.
Ngo bataye inzira igororotse barazimira bakurikira inzira ya Balamu mwene Beyori umwe yakunze ingero zo kugabitanya.
Donc voyez, la doctrine des Nicolaïtes, c'était selon cette histoire de Balaam et de Balak.
Urumva inyigisho y'abanikolaiti yari huye n'izi nkuru zerekana Balak na Balamu ko bakoze.
Donc Balak a proposé de l'argent à Balaam, un prophète de Dieu.
Baraki yabwiye Balamu ko azomuha amafaranga kandi ari umukozi w'Imana umvugishwa
w'Imana. Et Balaam avait accepté, Dieu a dû intervenir puissamment pour l'empêcher.
Balaamu yari yavyemeye Imana iza mu bushobozi kugira ngo ibihagarike.
Il y a des gens qui font des choses comme ça tristement qui abusent l'onction, qui corrompent l'onction.
Hari abantu rero bakora ibintu mwe n'ibyo ugasanga barahushishije inzira amavuta y'Imana.
Et tristement ça se voit chez certains serviteurs de Dieu qui ont été puissamment oints dans certains domaines.
Birababaje hari aho ushobora kubisanga ku bakozi b'Imana basizwe amavuta.
Qui utilisent certains dons divins à des fins personnelles. Ça s'appelle corrompre ou pervertir l'onction. Et c'est un degré extrêmement grave de péché aux yeux de Dieu. Car Dieu nous fait des dons en tant que serviteur pour que nous servions l'humanité. Et la récompense que nous recevrons sera au ciel, non pas ici sur la terre. Et quand un serviteur de Dieu utilise ce que le Seigneur lui a donné pour se glorifier, pour soutirer de l'argent, pour avoir un pouvoir, c'est extrêmement dangereux pour sa vie. Extrêmement dangereux pour sa vie. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.